Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec le nouvel ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, monsieur l'ambassadeur, ça fait un peu plus d'un mois, me semble-t-il, que vous êtes arrivé à Canberra. Quelles sont vos premières impressions? Et est-ce que l'Australie, vous connaissiez déjà? C'est la première fois que vous y mettez les pieds?
Alors, ce n'est pas la première fois que j'y mets les pieds, puisque j'ai déjà été en poste à Tokyo, à Hong Kong, et quand on est dans la région, eh bien, l'Australie, c'est quand même le grand continent à la fois mystérieux et puis dont on a entendu plein de choses positives d'ailleurs, et j'étais déjà venu avec ma famille il y a quelques années. Mais là, effectivement, depuis à peine un peu plus d'un mois, on est arrivé à Canberra et c'est une totale découverte parce que c'est vraiment commencer à rencontrer du monde, pas simplement à Canberra. J'ai eu la chance d'aller très vite à Sydney, où j'ai rencontré beaucoup de personnes de notre communauté. Et quand je parle de notre communauté, ce sont aussi bien les Français établis ici depuis longtemps, parfois depuis moins longtemps, et puis tous ces couples franco-australiens qui font aussi l'épaisseur de la relation entre nos deux pays. Je suis allé aussi également à Adelaide, très belle ville, une destination pas assez connue. C'est un lieu extrêmement vivant avec de nombreux Français, de plus en plus, des initiatives. Puis j'attends d'aller bientôt à Melbourne, à Perth. Je me suis engagé à aller partout en Australie dans les 6 premiers mois de mon mandat, à la fois parce que je sais que c'est là où se passent les choses, pas forcément dans la bulle de Canberra. C'est là où on peut rencontrer nos compatriotes et c'est là où on peut rencontrer aussi tous ceux qui font la réalité de la relation entre la France et l'Australie.
Alors donc, vous avez été nommé tout récemment pour remplacer votre prédécesseur, Christophe Penaud. Est-ce qu'on vous a donné des instructions précises? Est-ce que vous avez des missions spécifiques à accomplir ici?
J'ai été nommé, effectivement, comme tous les ambassadeurs, par décision du président de la République, prise en conseil du ministre. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler pendant 3 ans à l'Élysée, près de la cellule diplomatique du président de la République, pour préparer la présidence du G7. Une présidence dans laquelle nous avions d'ailleurs, le président avait souhaité que l'on invite l'Australie comme un invité majeur. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que désormais, il semble que l'habitude soit prise, que l'Australie soit invitée dans de tels sommets, puisque l'annonce a été faite que lors du sommet sous présidence britannique, l'Australie serait également invitée. Je peux vous dire que le président de la République, à titre personnel, a gardé un très fort et très favorable, je dirais, souvenir de sa visite officielle en 2018. Il l'avait souhaité venir en Australie parce qu'il savait qu'il y avait un énorme potentiel pour nos relations bilatérales. Il savait quelle était l'histoire de l'Australie et son insertion dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique et le rôle clé qu'elle y occupe. Donc, c'était vraiment de sa part une volonté politique claire et exprimée de manière régulière de donner de l'importance à la relation entre la France et l'Australie. Il m'a demandé de venir en Australie pour, comme il le dit, avoir de l'ambition. C'est un président qui est soucieux du résultat et m'a demandé des résultats. Et donc, en tant qu'ambassadeur, je suis chargé d'être ambitieux pour la relation franco-australienne et de contribuer avec nos amis australiens, avec tous ceux qui, en France, aussi suivre cette relation, de la développer, de la densifier, et ce dans tous les domaines. C'est-à-dire, c'est le domaine bien sûr stratégique, il y a d'évidentes conjonctions d'intérêts entre nous dans tous les domaines, mais c'est également le sujet économique, c'est le sujet éducatif, ce sont l'ensemble des sujets qui font une relation entre deux pays. Et pour ça, notre communauté est un pont essentiel.
Ces dernières années, la France et l'Australie se sont beaucoup rapprochées sur le plan économique, éducatif, culturel, de la défense, le contrat des sous-marins. Mais pour Emmanuel Macron et le gouvernement français, la question de l'environnement est centrale. On sait que l'Australie en la matière n'est pas un très bon élève. Est-ce que vous avez eu des instructions sur ce point précis? Est-ce qu'on vous a demandé de mettre un peu la pression au gouvernement australien?
La question n'est pas de mettre la pression. De toute façon, les décisions prises en Australie sont prises par les Australiens au regard des circonstances australiennes. La seule chose que l'on peut faire, c'est être ouvert dans la discussion et encourager ce qui nous semble être une bonne chose, sous réserve que ce soit décidé par les Australiens, pour les Australiens. En tout cas, aujourd'hui, l'Australie est clairement dans le cadre de l'accord de Paris. l'Australie est membre de l'accord de Paris et elle n'en est jamais sortie, contrairement à d'autres grandes puissances. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle d'être sortie de l'accord de Paris puis après d'y rentrer, mais enfin l'Australie a toujours été dans l'accord de Paris. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que l'on peut constater, et je crois que la communauté française, presque plus que d'autres, peut constater, parce que ce sont des entreprises françaises aussi qui interviennent dans ce domaine-là, c'est l'énorme activité qui existe de par tout le pays, dans chacun des États, pour développer des solutions nouvelles, ingénieuses, de pointe, dans les secteurs des énergies renouvelables. Donc, à la limite, on se bat peut-être sur des présentations. L'important, c'est ce qui est fait. Et aujourd'hui, il y a une densité d'initiatives dans les territoires qui va dans la bonne direction. Tous les États australiens se sont engagés sur un objectif ambitieux de neutralité carbone. On voit bien que les entreprises australiennes, les fédérations d'entreprises australiennes, même les fédérations agricoles, représentant l'agriculture, se sont engagées sur des objectifs de neutralité carbone. Il faut reconnaître qu'il y a ici, en Australie, des sensibilités peut-être exacerbées sur certains mots et la manière de présenter les choses, mais je dirais, quel que soit l'emballage, l'essentiel, c'est le contenu du cadeau. Et le cadeau pour la planète, c'est les gestes réels pris par des entreprises, des particuliers, des États pour aller dans la bonne direction qui est celui effectivement de la neutralité carbone le plus tôt possible.
Un mot maintenant sur le territoire français le plus proche de l'Australie, la Nouvelle-Calédonie. Il y a quelques échauffourées en ce moment, le climat est plutôt tendu. J'ai vu qu'encore lundi, il y avait eu un peu de la casse et des incidents autour de cette fameuse mine de nickel. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez attentivement ?
C'est forcément quelque chose que l'on suit attentivement, comme tout ce qui se passe sur le territoire français. Le fait que la Nouvelle-Calédonie, c'est finalement la France la plus proche en termes géographiques, forcément, ça attire l'attention. Moi, je crois que ce qu'il faut voir, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait eu des échauffourées, c'est le fait aussi que très rapidement, toutes les parties, quels que soient leurs choix politiques ou leurs orientations politiques, ont souhaité dialoguer, que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, quand il a proposé l'ouverture d'un dialogue, ça a suscité un accord de l'ensemble des parties et que toutes et tous en Nouvelle-Calédonie, visiblement, souhaite que ce soit, que cet avertissement, si on doit le qualifier ainsi, je dirais, se termine d'une manière pacifique dans l'intérêt de l'ensemble des composantes de l'île. Fondamentalement, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas des échauffourées. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie, comme on voit quand on regarde l'ensemble du Pacifique et même l'Indo-Pacifique, c'est d'être une des régions motrices du développement de cet Indo-Pacifique. La Nouvelle-Calédonie a d'immenses atouts. Les immenses atouts, ce n'est pas forcément d'ailleurs ses ressources naturelles. Ces immenses atouts, ce sont ces hommes et ces femmes d'origines différentes, c'est vrai, et qui ont appris à se connaître, qui ont appris à se respecter, qui souvent, parce qu'on souligne toujours ce qui différencie, qui souvent font des choses ensemble et qui sont entreprenants. La Nouvelle-Calédonie, c'est au plus proche de l'Australie, le territoire avec lequel on peut développer des choses formidables.
Un dernier point sur le sujet inévitable de cette année, la pandémie de coronavirus. L'Australie, bon an, mal an, s'en sort quand même très bien. On a moins de 1000 morts depuis le début de l'année. Un nombre de cas qui, comparé à ce qu'on peut voir en Europe et en France en particulier, est minime. Est-ce que sur cette gestion de la pandémie, l'Australie a des leçons à donner à la France ?
Les circonstances sont particulières à chaque fois. Il est certain que des États insulaires ou qui contrôlent très efficacement leurs frontières peuvent mieux lutter contre des pandémies du type coronavirus. Et l'Australie a certainement été très sage, à la fois au niveau de son gouvernement et au niveau du gouvernement de chacun de ses États, dans les mesures qu'elle a su prendre pour contrôler la pandémie, quitte à prendre des décisions très dures et cependant qui ont su recueillir l'accord de sa population. Je crois que la question n'est pas de donner des leçons. Par contre, d'apprécier et de féliciter l'Australie pour la manière dont elle a géré les choses, oui, ça c'est clair. L'Australie a su éviter les drames humains qui sont en train de frapper encore, et parfois de manière accélérée, d'autres pays dans le monde. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'elle est meilleure ou moins bonne, c'est parce qu'en fait, elle a su prendre les bonnes décisions dans des circonstances qui étaient les siennes. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'avenir, on aura probablement, une fois que les choses seront passées, on espère que ce sera assez rapidement passé, il faudra en tirer des leçons au niveau de qu'est-ce qu'on fait au niveau international pour lutter contre d'éventuelles nouvelles pandémies. Donc, encore une fois, oui, il faut saluer et l'Australie, ses autorités et la population australienne pour à la fois, je dirais, la vigilance dont ils ont fait preuve et l'efficacité avec laquelle ils ont adopté les mesures.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Une dernière chose plus légère, on arrive à la fin de cette année qui a été très, très, très longue. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 et est-ce que vous avez prévu de prendre des résolutions?
La première chose, c'est que, puisque vous m'en offrez la possibilité, c'est vraiment d'exprimer mes meilleurs et très sincères vœux, les plus chaleureux, aux Françaises, aux Français, aux Franco-Australiens, aux Australiens-Français pour cette nouvelle année. Que ce soit une nouvelle année marquée, si possible, par des retrouvailles familiales. Je sais qu'il y a encore des situations dramatiques dans lesquelles des couples sont séparés, des enfants sont séparés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et dans des circonstances aussi dramatiques d'une pandémie, eh bien, c'est un manque tout particulier. Donc, mon premier vœu, si vous voulez, c'est vraiment de souhaiter que cette nouvelle année soit l'année de la réunion, des retrouvailles et l'année du retour à la normalité. La seconde chose, c'est que pour moi, s'il faut me souhaiter quelque chose, eh bien, écoutez, c'est d'avoir l'occasion de rencontrer au maximum les Françaises, les Français, les Franco-Australiens, les francophiles de ce grand pays. C'est avec eux que je souhaite, et qu'il m'a été demandé, de bâtir la relation franco-australienne de l'avenir. Alors, ce que vous pouvez me souhaiter, eh bien, c'est que les voyages reprennent pour nous tous, pour nous toutes, que ce soit l'occasion du coup de reprendre ce rythme très intense qui était prévu de relations entre la France et l'Australie avec de nombreuses visites prévues dans les deux sens, que ce soit l'occasion aussi de réaliser des projets qui vont illustrer une fois de plus la relation entre nos deux pays. Que ce soit une année de paix et de prospérité pour toutes et tous et que l'ambassade puisse jouer un petit rôle pour appuyer tout cela, mais grâce à toutes et à tous, parce que c'est véritablement une œuvre d'ensemble. Il n'y a pas d'un côté l'ambassade et puis de l'autre côté des Français ou des Franco-Australiens ou même des Australiens. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut construire et qu'une ambassade qui est une sorte d'accélérateur, de relais de l'énergie qui existe au sein d'un pays, c'est quelque chose qu'on doit et qu'on peut construire ensemble. Voilà. Donc, mon message à toutes et à tous, à vous, membres des médias, mais également à tous ceux qui font vivre cette relation franco-australienne, australo-française, c'est saisissons l'occasion pour ensemble être encore plus ambitieux, pour ensemble contribuer, je dirais, non seulement au développement de la relation, mais du coup, contribuer aussi à, faire en sorte qu'en Australie et en France, la compréhension l'un de l'autre soit plus forte, soit plus dense et aboutisse à cette communauté de destin à laquelle nous appelle notre communauté de valeurs.
Bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, bienvenue en Australie et à bientôt.
À très bientôt. Et en tout cas, merci beaucoup à vous, à SBS, qui est un média essentiel de notre relation. Voilà, bravo à vous et tous mes voeux à l'équipe de SBS et tous mes voeux à chacune et à chacun qui nous écoute.